7h50 sous le soleil en ce lundi matin. Vous êtes bien branchés à Boulevard 102.1. On est à moins 2 degrés. Ça va se réchauffer, puis pas mal aujourd'hui. Vraiment un beau lundi. 14 sera le maximum qu'on va atteindre cet après-midi. Pour ce qui est de demain et mercredi, c'est des nuages et de la pluie intermittente. Un maximum de 8 demain et un 7 degrés pour mercredi. Retour du soleil jeudi.
La circulation, une présentation de Bel Air Direct. Prenez le raccourci des soumissions rapides. Prochaine destination, rendez-vous en ligne. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Pour un lundi, c'est pas facile ce matin. L'accès au pont, là, c'est pas mal au rouge. Capitale-Ouest, assez difficile avant Beau-Royal jusqu'à Laurentienne. Robert-Bourassa-Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, là, c'est jamais. Ça remonte jusqu'à l'avenue Chauveau. Arcade-Sud reste encore un bon ralentissement quand même. Hauteur Chauveau-Ouest, la 40 direction Est à la hauteur de Duplessis. Il y a quand même pas mal de rouge qui se voit sur la carte. La capitale direction Ouest, là, dans le coin de l'entrée là, par Henri IV aussi, il y a un petit ralentissement. Et ça s'est compliqué un peu dans les dernières minutes. Laurentienne-Sud vers rue de la Faune où il y a des travaux là, aussi. C'est au ralenti.
Merci beaucoup, Max. Qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité ce matin?
C'est aujourd'hui que s'amorce la période d'inscription au camp de jour de la Ville de Québec pour l'été 2025. Les inscriptions qui se font directement sur les sites web des différents organismes gestionnaires. Les heures de début d'inscription qui varient d'un organisme à l'autre. Là. Donc, quand même faire attention pour bien regarder ça et pas manquer sa chance. Une nouvelle vague de journée de grève s'amorce pendant ce temps dans les CPA du Québec. 13 000 travailleuses affiliées à la CSN qui seront en débrayage aujourd'hui, demain et mercredi. La menace d'une grève générale illimitée qui plane toujours. Le syndicat qui ne cache pas que c'est une possibilité qui est sur la table. Et le gouvernement du Québec souhaite aller de l'avant avec l'abolition du prix plancher de l'essence avant l'été. Le Journal de Québec qui a appris que la mesure annoncée il y a bientôt un an par Pierre Fitzgibbon doit finalement être intégrée au projet de loi 69 sur l'énergie grâce à un amendement. Ce sera donc bientôt possible pour des détaillants de vendre à perte l'essence s'ils le désirent, par exemple dans le but d'attirer plus de clients à leur commerce.
Tellement un plaisir de l'avoir en personne avec nous. Il vient d'arriver de l'Angleterre. Ouais. Il a débarqué de l'avion dans les dernières heures. Et le vulgarisateur d'actualité, Farnel Morissette, est avec nous en studio.
Soyez attentifs, ouvrez vos cerveaux parce que ce sera le cours 101 paradis fiscaux.
Et puis, j'en avais besoin. Je le disais la semaine dernière. Moi aussi. Je comprends... Farnel Morissette, bon lundi matin.
Bon lundi, c'est le fun d'être ici. Ouais.
J'avais vraiment besoin de toi et tes connaissances dans ce sujet-là parce que je disais la semaine dernière, et évidemment on parle de paradis fiscaux ou d'évitement fiscal parce que dans cette campagne électorale, le passé financier de Mark Carney revient souvent à la une, si on veut. Et là, on voit souvent justement paradis fiscaux, évitement fiscal. Puis moi, je me disais tout le temps, bon, mais c'est-tu illégal ou c'est pas illégal? Puis si c'est légal, pourquoi ça a toujours mauvaise presse ou on voit ça de façon négative? Peut-être qu'on pourrait commencer en expliquant la différence entre un paradis fiscal et un évitement fiscal?
Ben, un paradis fiscal, on va généralement dire, c'est une juridiction, un pays où c'est possible, ben, de un pays où, où on paye très peu d'impôts au gouvernement de ce pays-là et où ce pays-là va faciliter ou au moins pas nécessairement rendre la vie facile aux gouvernements étrangers qui veulent aller saisir des actifs pour de l'impôt non payé. Alors, si moi, je suis un individu, par exemple, et j'ai plein de revenus que je veux cacher du gouvernement parce que je veux pas être obligé de payer de l'impôt dessus, ou si je veux le protéger contre des saisies, peu importe, je peux les mettre dans des pays où ils ont des lois très, très relaxes par rapport à l'obligation de divulguer, ou ils n'ont pas de traité avec le Canada qui force la reprise de certains actifs. Je les mets là, je les cache, je les protège. Ça, c'est illégal, okay, généralement, mais c'est très difficile à détecter, à moins qu'on fouille. De l'évitement fiscal, ça peut se faire par des paradis fiscaux aussi. Le paradis fiscal, c'est le pays. C'est un outil, on peut l'utiliser de façon légale, on peut l'utiliser de façon illégale. Il y a des façons légales de faire de l'évitement fiscal qui est quand même critiqué parce que, je veux dire, même si c'est légal, ça ne veut pas dire que c'est moral. Ça ne veut pas dire que parce que les riches ont accès à toutes sortes de stratagèmes qui passent à travers des entourloupes légales, que ça, c'est quelque chose qui est correct. Et il y a aussi de l'efficacité fiscale. Puis ça, c'est utiliser des paradis fiscaux de façon légale, de façon ouverte, sans nécessairement passer par un détournement, okay, juste pour avoir de l'efficacité économique, pour ne pas être obligé de payer plus d'impôts à un autre pays qu'on serait obligé de le faire autrement.
C'est quoi l'avantage pour les pays, exemple comme les îles Caïmans, de justement créer ces paradis fiscaux-là?
ça attire beaucoup de business, de finance internationale, de la haute finance mondiale, de gens qui veulent... on parle par exemple de Mark Carney qui était gestionnaire de fonds d'investissement privé. Ben, on veut ramasser de l'argent d'un peu partout dans le monde. Il faut que le fonds soit enregistré à quelque part dans un pays. Alors, avoir des pays qui se spécialisent à dire « Nous, on va pas vous imposer là-dessus. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre argent. On va vous charger des petits frais. » Ça va permettre à ces petites économies-là de se créer des secteurs de marché qui sont généralement très bien développés, qui sont des emplois très bien payés. Ça attire de la main-d'œuvre qualifiée chez eux, ce qui est, ça fait partie de leur stratégie de développement économique interne, à se dire on va être un peu l'espèce de marché international, la place où les gens peuvent transiger sans que nous, on leur charge de l'impôt, puis en échange, on espère attirer du personnel.
Vrai ou faux, Farnell, que les gens fortunés ou la majorité des gens fortunés utilisent des paradis fiscaux?
Ça dépend ce que vous voulez dire par fortuné. Si on parle, par exemple, de quelqu'un qui a peut-être 1 ou 2 millions dans son fonds de retraite, par exemple, probablement pas. Mais si on parle de quelqu'un qui a des milliards, ça devient un peu plus commun. Pour toutes sortes de raisons. Ça, encore une fois, ça peut être pour des raisons illégales, puis ça, il faut en être conscient. Ça peut être pour des raisons légales, mais peut-être pas tout à fait légitimes. Et ça peut être pour des raisons légales et parfaitement légitimes, comme de la participation à des fonds d'investissement internationaux qui sont enregistrés dans ces pays-là pour des questions d'efficacité économique.
Est-ce que le fait que la ligne est dure à tracer en ce qui est légal puis pas légal, quand on parle d'évitement fiscal ou de paradis fiscaux, tout ça, c'est pas mal ça qui fait que c'est difficile pour des gouvernements de légiférer?
Oui, c'est difficile pour les gouvernements de légiférer parce que, ben, je veux dire, si on parle, on pense aux îles Caïmans, aux Bermudes, par exemple, ben, le gouvernement du Canada n'a pas la capacité de faire des lois qui vont s'appliquer à ce qui se passe dans les îles Caïmans ou aux Bermudes. Tout comme, je veux dire, les îles Caïmans n'ont pas la capacité de faire des lois qui vont affecter ce qui se passe au Canada. Alors, ce qu'il faut faire, c'est des traités. Il faut qu'il y ait un traité entre le Canada et un pays qui est un paradis fiscal potentiel.
Qui gagnerait rien à faire ça.
Ben, c'est ça. C'est que souvent, ces pays-là ont tout intérêt à rester un endroit qui est très ouvert et amical aux gens qui veulent peut-être pas nécessairement être trop proches du fisc dans leur propre pays.
Mark Carney, hier à Tout le monde en parle, a donné une explication assez boiteuse de paradis fiscaux, taxes, impôts. Je te laisse l'entendre, puis après, je veux justement avoir ton opinion là-dessus. Okay.
En ce qui concerne la structure dont vous parlez, l'impact de cette structure est que les gens payent la taxe ici, pas au Bermuda ou au l'île de Cayman. Alors, c'est une structure qui bénéficie les retraités, les enseignants, les gendarmes qui travaillent ici au Canada. Alors, dans ce cas, ça vaut mieux pour le Canada et pour les gens qui travaillent ici de rester avec cette structure. Mais en ce qui concerne le système de taxes, oui, il faut faire des révisions, ça c'est clair.
Je comprends pas tant.
Moi non plus, mais j'ai vu Farnell lever les yeux au ciel à deux reprises sur toute taxe qui profite aux personnes aînées. Ouais. Donne-nous ton opinion.
Ben, faut dire, j'ai travaillé et je travaille encore en droit des affaires. En partie à faire des fonds d'investissement privés. Mm-hmm. Alors, je veux dire, je le dis sans gêne, là, des fonds d'investissement privés enregistrés aux îles Caïmans, aux Bermudes, j'en ai formé probablement à peu près une douzaine ou plus dans les 5-6 dernières années.
Ah, okay. Oh, ben là, quitte le studio.
Ben, c'est ça. Ah, je suis un méchant. En tout cas, c'est la première fois que j'entends l'extrait de M. Carney. J'étais en retour de Londres hier, alors j'ai pas pu l'écouter live. Mais mon interprétation, ma compréhension de ce qu'il dit, ce qu'il explique essentiellement, c'est que faut commencer par comprendre c'est quoi un fonds d'investissement privé. Je pense, essentiellement, c'est pas compliqué. C'est un pool d'argent qui vient largement d'investisseurs institutionnels, surtout à la hauteur dans laquelle M. Carney semblait travailler, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il mentionne, par exemple, des fonds de pension. C'est vrai que des fonds de pension sont des investisseurs très importants dans des fonds d'investissement privés. C'est essentiellement toutes sortes de gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont une obligation de faire fructifier cet argent-là. Ils vont investir en partie dans des fonds d'investissement privés. Ils vont le faire partout dans le monde pour diversifier, pour limiter leurs risques. Alors, comme on peut avoir un fonds de pension d'enseignants de l'Ontario, qui est un énorme joueur dans le monde de la finance internationale. Oui. On pourrait avoir un fonds de de nettoyage environnemental en Inde. On pourrait avoir un fonds d'assurance au Japon. Tous ces gens-là veulent se diversifier, vont mettre leur argent dans plusieurs pools. Ces pools-là sont des fonds d'investissement privés qui vont être enregistrés à quelque part. Après ça, le gestionnaire va prendre le pool et faire des investissements un peu partout dans le monde. Si le fonds est enregistré dans un pays où il faut payer de l'impôt à ce pays-là, avant que l'argent puisse sortir et être redistribué à travers tous les investisseurs dans tous les autres parties, dans tous les autres pays, bien, ça veut dire que tous les autres investisseurs dans tous les autres pays vont avoir moins de profits. Et quand l'argent revient chez eux, ils vont avoir moins de profits qui revient chez eux qui vont pouvoir être taxés par les gouvernements locaux. Alors, c'est un peu, je pense que c'est ça qu'il essaie d'expliquer en disant, en ayant un fonds d'investissement qui est organisé dans un pays qui ne charge pas d'impôts local, ça veut dire que les autres investisseurs dans d'autres pays peuvent ramener une plus grosse partie de leur butin chez eux. Alors, s'il y a des investisseurs canadiens, ça veut dire que les institutions canadiennes ramènent plus de profits chez eux et donc il y a plus de profits qui rentrent au Canada qui peut après ça être taxé au Canada. Ça, c'est la théorie qui semble expliquer.
À quel point c'est grave, le passé financier de Mark Carney? À quel point c'est grave que peut-être le futur premier ministre du Canada a eu affaire à des paradis fiscaux dans le passé?
Ça dépend ce qu'il en a fait. Je sais qu'il y a eu question au début de la campagne sur ses actifs personnels. J'ai pas l'impression que ça, la réponse est entièrement claire. Je sais qu'il a dit qu'il a mis ses actifs dans une fiducie sans droit de regard. Alors, ça, c'est une chose. Généralement, quelqu'un qui, à titre personnel, a beaucoup d'actifs dans des paradis fiscaux, c'est, encore une fois, c'est peut-être légal, mais je pense qu'il y a des questions, il y a des questions à se poser là. Si on parle de questions de quelqu'un comme Mark Carney qui faisait de la gestion de portefeuille de fonds d'investissement privé à l'international, qui a fait ça, ben comme je disais, moi, je travaille dans cette business-là aussi, puis je me sens pas de croche à le faire. Ça dépend évidemment de comment chaque personne perçoit le monde de la finance internationale au complet, puis ça, c'est un jugement moral que je peux pas faire à la place des autres, mais le faire à un niveau institutionnel pour des investisseurs institutionnels, c'est monnaie courante, c'est parfaitement légal. Ces investisseurs institutionnels-là sont généralement assujettis à des normes beaucoup plus rigoureuses que des individus sont. Alors, quand ils ramènent de l'argent au Canada, justement, le gouvernement canadien, québécois, a un regard beaucoup plus profond là-dessus. Moi, c'est pas ça qui me dérange. Mais encore une fois, je veux pas faire le jugement moral pour les autres.
À Rage Against ce matin, on aime ça, montrer les deux côtés de la médaille. On veut, à l'heure actuelle, avec les déficits records autant au Canada qu'au Québec, avoir des gens qui sont calés en économie, des économistes venir gérer notre pays, notre province. On va-tu nécessairement frapper toujours sur quelqu'un qui a fait des paradis fiscaux dans sa carrière privée si on veut ce type de personne-là?
Oui, probablement, parce que, comme je disais, c'est le standard dans l'industrie. Quand on veut récolter de l'argent de partout dans le monde pour le mettre dans un pool central à quelque part, on veut que ce pool central-là coûte le moins cher possible pour que les gens puissent le ramener le plus d'argent chez eux après. Alors, nécessairement, c'est des gens qui vont faire affaire avec des pays qui ont un traitement fiscal favorable à ce genre d'investissement-là. Moi, je vous dirais ce que je trouve intéressant, l'espèce de phénomène qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est en train de créer une réalité où passer par le monde de la finance, par le monde des banques, devient un chemin viable vers la politique. Puis ça, je pense que c'est un changement culturel qu'on devrait prendre note. Je vais être très honnête.
Ouais, voyons donc, explique-donc, ça m'intéresse.
Si on regarde, par exemple, aux États-Unis, jusqu'à très récemment, c'était presque un prérequis que le président des États-Unis ait eu un passé militaire. Jusqu'à peut-être Obama, je dirais. Et ça faisait partie de la culture, parce que je disais, c'est le commander-in-chief, on veut qu'il y ait de l'expérience militaire. Maintenant, c'est plus le cas, on cherche plutôt des gens qui ont peut-être une expérience internationale autre, une expérience diplomatique, une expérience d'affaires. Et ça relate un changement culturel qui est en train de se faire dans la politique. Ben, on est en train d'en vivre un, nous autres aussi, où le standard, si on voulait, pour devenir un politicien de très haut niveau, c'était de commencer probablement soit à être un professionnel ou dans le monde communautaire, être élu député, faire ses dents un peu, passer à travers le processus, être élu chef de parti, devenir premier ministre. Là, on est en train de dire, on semble être en train de se créer un confort à l'idée que ben, tu peux passer par le chemin des banques centrales, par exemple, tu peux passer par le chemin de la finance et le changement culturel que ça amène, si on crée un précédent, si ça devient normal que on voit le monde de la finance, et particulièrement les banques centrales, qui sont quand même une espèce d'hybride entre le monde de la finance puis le monde de la politique, comme un chemin viable vers un poste électoral très élevé. Ça, c'est un changement culturel qui va beaucoup affecter la façon qu'on voit notre politique, la façon qu'on voit notre utilisation du pouvoir et les portes du pouvoir aussi. Puis je pense qu'on devrait porter attention à ça.
Ouais, changement positif ou négatif? Ouais.
Changement à prendre acte, que ce soit positif ou négatif, je pense que ça varie beaucoup selon la façon qu'on voit le gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui voient le gouvernement comme étant, bon, ben, le rôle du gouvernement, c'est d'être un bon gestionnaire des finances publiques, c'est un bon gestionnaire des actifs publics, et que c'est ça la priorité. Ben, si c'est ça la priorité, je veux dire, je peux comprendre que quelqu'un comme Mark Carney est très, très attirant. Si on voit le gouvernement comme étant plutôt quelqu'un qui est là pour garantir la sécurité et les libertés, ben, c'est probablement pas quelqu'un qui est passé par le monde de la finance qui a nécessairement le plus de positions ferrées là-dessus. Alors, à chacun sa décision de quel genre de culture politique qu'on veut et comment on rentre là.
Le fameux débat entre le politicien de carrière et le petit nouveau sur la scène politique là, qui a un parcours atypique.
Oui, aussi. Et c'est quoi justement son parcours atypique? Là, je ne veux pas dire que je ne pense pas que M. Carney devrait pouvoir se présenter. C'est un citoyen comme n'importe quel autre. Il a les mêmes droits que n'importe quel autre. C'est juste que c'est plus la narrative, la discussion qui se crée autour de « oui, on veut quelqu'un qui a beaucoup d'expertise économique ». Je ne remets pas en doute l'expertise économique de Mark Carney, mais si ça devient un prérequis pour être premier ministre, je pense qu'on va avoir des questions politiques et culturelles à se poser plus tard.
On vous l'a-tu déjà dit qu'il est bon à vulgariser l'actualité, ce Farnell Morissette-là? Un cours 101 sur les paradis fiscaux.
Je pense que je suis prêt à travailler avec Farnell et créer un paradis fiscal. Ouais.
Ben, je l'ai déjà fait souvent, écoute. C'est ma job dans la vraie vie, là, à l'extérieur de ça.
Après le fonds philanthropique.
Ouais. C'est vrai, il faudrait parler de mon fonds philanthropique. Je peux-tu placer ça?
Farnell Morissette, toujours un plaisir, cher ami. Merci d'être passé nous voir. Je sais que tu as débarqué de l'avion il y a quelques heures.
Ah, j'ai encore des petits yeux, mais ça me fait plaisir d'être ici.
Très apprécié. Suivez-le sur les réseaux sociaux parce qu'il fait une motadine de bonne job à vulgariser l'actualité. On fait une courte pause à Rage Against le matin. Ensuite, on jase Ivan Demidov avec Matt Paradis de tout sur le hockey. Mais avant, circulation, Max?
Deux trucs, 20 ouest, l'accès vers le pont Pierre-Laporte, la voie droite qui est partiellement entravée. Il y a un accrochage. Robert Brosse sud vers fin de l'accès par boulevard Wilfrid Hamel. Un accrochage, là aussi.
Merci beaucoup, Max. 88 971 1021 si vous voyez quoi que ce soit. Rage.